Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, nous revenons donc ensemble ce soir dans la diligence du rideau cramoisi, le texte de Barbet d'Orvilly. Le vicomte de Brassard continua. Mais ce que je connaissais de la femme ne me poussait pas beaucoup à imiter mon ami Louis. Ce que j'en savais, je l'avais vulgairement appris là où les élèves de Saint-Cyr l'apprennent les jours de sortie. Et puis, il y a des tempéraments qui s'éveillent tard. Est-ce que vous n'avez pas connu Saint-Rémy, le plus mauvais sujet de toute une ville, célèbre par ses mauvais sujets, que nous appelions le Minotaure, non pas au point de vue de ses cornes, quoi qu'il en portât, puisqu'il avait tué l'amant de sa femme, mais au point de vue de la consommation?
Oui, je l'ai connu, répondis-je, mais vieux, incorrigible, se débauchant de plus en plus à chaque année qui lui tombait sur la tête.
Pardieu, si je l'ai connu! Ce grand rompu de Saint-Rémy, comme on dit dans Brantôme.
Ben, c'était en effet un homme de Brantôme, reprit le vicomte.
Eh bien, Saint-Rémy, à 27 ans sonné, n'avait pas encore touché ni à un verre, ni à une jupe. Il vous le dira, si vous voulez. À 27 ans, il était, en fait de femme, aussi innocent que l'enfant qui vient de naître. Et quoiqu'il ne têtât plus sa nourrice, il n'avait pourtant jamais bu que du lait et de l'eau.
Là, il a joliment rattrapé le temps perdu, fis-je.
Oui, dit le vicomte,
et moi aussi.
Mais j'ai eu moins de peine à le rattraper. Ma première période de sagesse à moi ne dépassa guère le temps que je passais dans cette ville. Et quoique je n'y eusse pas la virginité absolue dont parle Saint-Rémy, j'y vivais cependant, ma foi, comme un vrai chevalier de Malte. J'aurais même succédé à un de mes oncles dans sa commanderie sans la révolution qui abolit l'ordre, dont, tout aboli qu'il fût, je me suis quelquefois permis de porter le ruban. Une fatuité.
Quant aux hôtes que je m'étais donné en louant leur appartement, continua le vicomte de Brassard, c'était bien tout ce que vous pouvez imaginer de plus bourgeois. Ils n'étaient que deux, le mari et la femme, tous deux âgés, n'ayant pas mauvais ton, au contraire. Dans leur relation avec moi, ils avaient même cette politesse qu'on ne trouve plus, surtout dans leur classe, et qui est comme le parfum d'un temps évanoui. Je n'étais pas dans l'âge où l'on observe pour observer, et il m'intéressait trop peu pour que je pensasse à pénétrer dans le passé de ces deux vieilles gens, à la vie desquelles je me mêlais de la façon la plus superficielle 2 heures par jour, le midi et le soir, pour dîner et souper avec eux. Rien ne transpirait de ce passé dans leurs conversations devant moi, lesquelles conversations trottaient d'ordinaire sur les choses et les personnes de la ville qu'elles m'apprenaient à connaître et dont ils parlaient, le mari avec une pointe de médisance gaie et la femme très pieuse avec plus de réserve, mais certainement non moins de plaisir. Je crois cependant avoir entendu dire au mari qu'il avait voyagé dans sa jeunesse, pour le compte de je ne sais qui et de je ne sais quoi, et qu'il était revenu tard épouser sa femme, qu'il avait attendue. C'était au demeurant de très braves gens, aux mœurs très douces et de très calmes destinées. La femme passait sa vie à tricoter des bas à côté de son mari, et le mari, timbré de musique, a raclé sur son violon de l'ancienne musique de Viotti, dans une chambre à Galta, au-dessus de la mienne. Plus riche, peut-être l'avait-il été. Peut-être quelques pertes de fortune qu'il voulait cacher les avaient-elles forcées à prendre chez eux un pensionnaire. Mais autrement que par le pensionnaire, on ne s'en apercevait pas. Tout dans leur logis respirait l'aisance de ces maisons de l'ancien temps, abondantes en linge qui sent bon, en argenterie bien pesante, et dont les meubles semblent des immeubles, tant on se met peu en peine de les renouveler. Je m'y trouvais bien. La table était bonne, et je jouissais largement de la permission de la quitter dès que j'avais, comme disait la vieille Olive qui nous servait, les barbes torchées, ce qui faisait bien de l'honneur de les appeler des barbes, aux trois poils de chat de la moustache d'un gamin de sous-lieutenant qui n'avait pas encore fini de grandir. J'étais donc là environ depuis un semestre, tout aussi tranquille que mes hôtes, auxquels je n'avais jamais entendu dire un seul mot ayant trait à l'existence de la personne que j'allais rencontrer chez eux. Quand un jour, en descendant pour dîner à l'heure accoutumée, j'aperçus dans un coin de la salle à manger une grande personne qui, debout et sur la pointe des pieds, suspendait par les rubans de son chapeau à une patère comme une femme parfaitement chez elle et qui vient de rentrer. Cambrée à outrance, comme elle l'était, pour accrocher son chapeau à cette patère placée très haut, elle déployait la taille superbe d'une danseuse qui se renverse. Et cette taille était prise, c'est le mot, tant elle était lassée, dans le corselet luisant d'un spencer de soie verte à franges qui retombait sur sa robe blanche, une de ces robes du temps d'alors qui serrait aux hanches et qui n'avait pas peur de les montrer quand on en avait. Les bras encore en l'air, elle se retourna en m'entendant entrer et elle imprima à sa nuque une torsion qui me fit voir son visage. Mais elle acheva son mouvement comme si je n'eusse pas été là, regarda si les rubans du chapeau n'avaient pas été froissés par elle en le suspendant, et cela accomplit lentement, attentivement et presque impertinemment, car après tout j'étais là, debout, attendant, pour la saluer, qu'elle prit garde à moi. Elle me fit enfin l'honneur de me regarder avec deux yeux noirs très froids, auxquels ses cheveux, coupés à la Titus et ramassés en boucle sur le front, donnait l'espèce de profondeur que cette coiffure donne au regard. Je ne savais pas qui ce pouvait être à cette heure et à cette place. Il n'y avait jamais personne à dîner chez mes hôtes. Cependant, elle venait probablement pour dîner. La table était mise et il y avait quatre couverts. Mais mon étonnement de la voir là fut de beaucoup dépassé par l'étonnement de savoir qui elle était quand je le sus. Quand mes deux hôtes, entrant dans la salle, me la présentèrent comme leur fille, qui sortait de pension et qui allait désormais vivre avec eux. Leur fille. Il était impossible d'être moins la fille de gens comme eux que cette fille-là. Non pas que les plus belles filles du monde ne puissent naître de toute espèce de gens, j'en ai connu, et vous aussi, n'est-ce pas? Physiologiquement, l'être le plus laid peut produire l'être le plus beau. Mais elle, entre elle et eux, il y avait l'abîme. D'ailleurs, physiologiquement, puisque je me permets ce grand mot pédant qui est de votre temps, non du mien, on ne pouvait la remarquer que pour l'air qu'elle avait et qui était singulier dans une jeune fille aussi jeune qu'elle, car c'était une espèce d'air impassible, très difficile à caractériser. Elle ne l'aurait pas eu qu'on aurait dit « voilà une belle fille ». Et on n'y aurait pas plus pensé qu'à toutes les belles filles qu'on rencontre par hasard et dont on dit cela pour n'y plus penser jamais après. Mais cet air qui la séparait non pas seulement de ses parents, mais de tous les autres, dont elle semblait n'avoir ni les passions ni les sentiments, vous clouait de surprise sur place. L'infante à l'épagneul de Velasquez pourrait, si vous la connaissez, vous donner une idée de cet air-là, qui n'était ni fier, ni méprisant, ni dédaigneux, non, mais tout simplement impassible. Car l'air fier, méprisant, dédaigneux, dit aux gens qu'ils existent, puisqu'on prend la peine de les dédaigner ou de les mépriser, tandis que cet air-ci dit tranquillement « Pour moi, vous n'existez même pas. » J'avoue que cette physionomie me fit faire, ce premier jour et bien d'autres, la question qui, pour moi, est encore aujourd'hui insoluble. Comment cette grande fille-là était-elle sortie de ce gros bonhomme en redingote jaune-vert et à gilet blanc, qui avait une figure couleur de confiture de sa femme, une loupe sur la nuque, laquelle débordait, sa cravate de mousseline brodée et qui bredouillait. Et si le mari n'embarrassait pas, car le mari n'embarrasse jamais dans ces sortes de questions, la mère me paraissait tout aussi impossible à expliquer. Mademoiselle Albertine, c'était le nom de cette archiduchesse d'altitude tombée du ciel chez ces bourgeois, comme si le ciel avait voulu se moquer d'eux. Mademoiselle Albertine, que ses parents appelaient Albert, pour s'épargner la longueur du nom, mais ce qui allait parfaitement mieux à sa figure et à toute sa personne, ne semblait pas plus la fille de l'un que de l'autre. À ce premier dîner, comme à ceux qui suivirent, elle me parut une jeune fille bien élevée, sans affectation, habituellement silencieuse, qui, quand elle parlait, disait en bons termes ce qu'elle avait à dire, mais qui n'outrepassait jamais cette ligne-là. Au reste, elle aurait eu tout l'esprit que j'ignorais qu'elle eût, qu'elle n'aurait guère trouvé l'occasion de le montrer dans les dîners que nous faisions. La présence de leur fille avait nécessairement modifié les commérages des deux vieilles gens. Ils avaient supprimé les petits scandales de la ville. Littéralement, on ne parlait plus à cette table que de choses aussi intéressantes que la pluie et le beau temps. Aussi, mademoiselle Albertine ou Alberte, qui m'avait tant frappé d'abord par son air impassible, n'ayant absolument que cela à m'offrir, me blasa bientôt sur cet air-là. Si je l'avais rencontré dans le monde pour lequel j'étais fait et que j'aurais dû voir, cette impassibilité m'aurait très certainement piqué au vif. Mais pour moi, elle n'était pas une fille à qui je puisse faire la cour, même des yeux. Ma position vis-à-vis d'elle, à moi en pension chez ses parents, était délicate et un rien pouvait la fausser. Elle n'était pas assez près ou assez loin de moi dans la vie pour qu'elle pût mettre quelque chose. Et j'eus bientôt répondu naturellement et sans intention d'aucune sorte par la plus complète indifférence à son impassibilité.
C'est le prince d'orange, au matin s'est levé. deux, trois grands coups de lance qu'un anglais m'a donné. J'en ai un à l'épaule et l'autre à mon côté. Que maudit soit la guerre et l'autre à mon côté. Un autre à la mamelle, on dit que j'en mourrai. Le beau prince d'Orange est mort et enterré. Que maudit soit la guerre et mort et enterré. J'ai vu porter en terre par quatre cordeliers. Le beau prince d'Orange est mort.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Le rideau cramoisi, la suite. Et cela ne se démentit jamais, ni de son côté, ni du mien. Il n'y eut entre nous que de la politesse la plus froide, la plus sobre de parole. Elle n'était pour moi qu'une image qu'à peine je voyais, et moi pour elle, qu'est-ce que j'étais ? À table, nous ne nous rencontrions jamais que là. Elle regardait plus le bouchon de la carafe ou le sucrier que ma personne. Ce qu'elle y disait, très correct, toujours fort bien dit, mais insignifiant, ne me donnait aucune clé du caractère qu'elle pouvait avoir. Et puis d'ailleurs, que m'importait ? J'aurais passé toute ma vie sans songer seulement à regarder dans cette calme et insolente fille à l'air si déplacé d'infante. Pour cela, il fallait la circonstance que je m'en vais vous dire et qui m'atteignit comme la foudre. Comme la foudre qui tombe sans qu'il ait tonné. Un soir, il y avait à peu près un mois que Mademoiselle Alberte était revenue à la maison et nous nous mettions à table pour souper. Je l'avais à côté de moi et je faisais si peu attention à elle que je n'avais pas pris encore garde à ce détail de tous les jours qui aurait dû me frapper. Qu'elle fût à table auprès de moi au lieu d'être entre sa mère et son père. Quand au moment où je dépliais ma serviette sur mes genoux, non, jamais je ne pourrais vous donner l'idée de cette sensation et de cet étonnement. Je sentis une main qui prenait hardiment la mienne par-dessous la table. Je crus rêver. Ou plutôt, je ne crus rien du tout. Je n'eus que l'incroyable sensation de cette main audacieuse qui venait chercher la mienne jusque sous ma serviette. Et ce fut inouï autant qu'inattendu.
Tout mon sang allumé sous cette prise se précipita de mon cœur dans cette main comme soutiré par elle, puis remonta furieusement comme chassé par une pompe dans mon cœur. Je vis bleu. Mes oreilles tintèrent. Je dus devenir d'une pâleur affreuse. Je crus que j'allais m'évanouir, que j'allais me dissoudre dans l'indicible volupté causée par la chair tassée de cette main un peu grande et forte comme celle d'un jeune garçon qui s'était fermée sur la mienne.
Comme vous le savez, dans ce premier âge de la vie, la volupté a son épouvante. Je fis un mouvement pour retirer ma main de cette folle main qui l'avait saisie, mais qui, me la serrant alors avec l'ascendant du plaisir qu'elle avait conscience de me verser, la garda d'autorité, vaincue contre ma volonté et dans l'enveloppement le plus chaud, délicieusement étouffé. Il y a 35 ans de cela. Et vous me ferez bien l'honneur de croire que ma main s'est un peu blasée sur l'étreinte de la main des femmes. Mais j'ai encore là, quand j'y pense, l'impression de celle-ci étreignant la mienne avec un despotisme si insensément passionné. En proie aux mille frissonnements que cette enveloppante main dardait à mon corps tout entier, je craignais de trahir ce que j'éprouvais devant ce père et cette mère dont la fille, sous leurs yeux, osait. Honteux pourtant d'être moins homme que cette fille hardie qui s'exposait à se perdre et dont un incroyable sang-froid couvrait l'égarement, je mordis ma lèvre au sang dans un effort surhumain pour arrêter le tremblement du désir qui pouvait tout révéler à ces pauvres gens sans défiance. Et c'est alors que mes yeux cherchèrent l'autre de ces deux mains que je n'avais jamais remarquées et qui, dans ce périlleux moment, tournait froidement le bouton d'une lampe qu'on venait de mettre sur la table car le jour commençait de tomber. Je la regardai. C'était donc là la sœur de cette main que je sentais pénétrant la mienne, comme un foyer d'où rayonnait et s'étendait le long de mes veines d'immenses lames de feu. Cette main, un peu épaisse, mais aux doigts longs et bien tournés, au bout desquels la lumière de la lampe qui tombait d'aplomb sur elle allumait des transparences roses, ne tremblait pas, et faisait son petit travail d'arrangement de la lampe pour la faire aller avec une fermeté, une aisance et une gracieuse langueur de mouvements incomparables. Cependant, nous ne pouvions pas rester ainsi. Nous avions besoin de nos mains pour dîner. Celle de Mademoiselle Albert quitta donc la mienne. Mais au moment où elle la quitta, son pied, aussi expressif que sa main, s'appuya avec le même aplomb, la même passion, la même souveraineté sur mon pied. Et y resta tout le temps que dura ce dîner trop court, lequel me donna la sensation d'un de ces bains insupportablement brûlants d'abord, mais auxquels on s'accoutume et dans lesquels on finit par se trouver si bien qu'on croirait volontiers qu'un jour les damnés pourraient le trouver fraîchement et suavement dans les brasiers de leur enfer comme les poissons dans leur eau. Je vous laisse à penser si je dînais ce soir-là et si je me mêlais beaucoup aux menus propos de mes honnêtes hôtes qui ne se doutaient pas dans leur placidité du drame mystérieux et terrible qui se jouait alors sous la table. Ils ne s'aperçurent de rien. Mais ils pouvaient s'apercevoir de quelque chose, et positivement, je m'inquiétais pour eux. Pour eux, bien plus que pour moi et pour elles. J'avais l'honnêteté et la commisération de mes 17 ans. Je me disais, est-elle effrontée? Est-elle folle? Et je la regardais du coin de l'œil, cette folle, qui ne perdait pas une seule fois durant le dîner son air de princesse en cérémonie et dont le visage resta aussi calme que si son pied n'avait pas dit et fait toutes les folies que peut dire et faire un pied. Sur le mien.
J'avoue que j'étais encore plus surpris de son aplomb que de sa folie. J'avais beaucoup lu de ces livres légers où la femme n'est pas ménagée. J'avais reçu une éducation d'école militaire. Utopiquement du moins, j'étais le Lovelace de fatuité que sont plus ou moins tous les très jeunes gens qui se croient de jolis garçons et qui ont pâturé des bottes de baisers derrière les portes et dans les escaliers sur les lèvres des femmes de chambre de leur mère. Mais ceci déconcertait mon petit aplomb de Lovelace de 17 ans. Ceci me paraissait plus fort que ce que j'avais lu, que tout ce que j'avais entendu dire sur le naturel dans le mensonge attribué aux femmes, sur la force de masque qu'elles peuvent mettre à leurs plus violentes ou leurs plus profondes émotions. Songez donc, elle avait 18 ans. Les avait-elle même ? Elle sortait d'une pension que je n'avais aucune raison pour suspecter, avec la moralité et la piété de la mère qu'il avait choisie pour son enfant. Cette absence de tout embarras, disons le mot, ce manque absolu de pudeur, cette domination aisée sur soi-même en faisant les choses les plus impudentes, les plus dangereuses pour une jeune fille, chez laquelle pas un geste, pas un regard n'avait prévenu l'homme auquel elle se livrait par une si monstrueuse avance, tout cela me montait au cerveau et apparaissait nettement à mon esprit malgré le bouleversement de mes sensations. Mais ni dans ce moment, ni plus tard, je ne m'arrêtais à philosopher là-dessus. Je ne me donnais pas d'horreur factice pour la conduite de cette fille d'une si effrayante précocité dans le mal. D'ailleurs, ce n'est pas à l'âge que j'avais, ni même beaucoup plus tard, qu'on croit dépraver la femme qui, au premier coup d'œil, se jette à vous. On est presque disposé à trouver cela tout simple, au contraire. Et si on dit « la pauvre femme », c'est déjà beaucoup de modestie que cette pitié. Enfin, si j'étais timide, je ne voulais pas être un niais. La grande raison française pour faire sans remords tout ce qu'il y a de pire. Je savais, certes, à n'en pas douter, que ce que cette fille éprouvait pour moi n'était pas de l'amour. L'amour ne procède pas avec cette impudeur et cette impudence. Et je savais parfaitement aussi que ce qu'elle me faisait éprouver n'en était pas non plus. Mais amour ou non, ce que c'était, je le voulais. Quand je me levais de la table, j'étais résolu. La main de cette Alberte, à laquelle je ne pensais pas une minute avant qu'elle eût saisi la mienne, m'avait laissé jusqu'au fond de mon être le désir de m'enlacer tout entier à elle, tout entière. Comme sa main s'était enlacée à ma main. Nous avons terminé pour ce soir donc cette lecture du Rideau cramoisi que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.